הוא כותב לתורה שבכתב. התורה שבכתב étant la mise par écrit de ce qu'il fallait mettre par écrit la Torah Shabbaté. Vous avez remarqué que cette mise par écrit est intentionnellement sous forme hermétique, occultée. En fait, personne ne comprend si on n'explique pas. Je pense que vous avez remarqué ça, que la Bible est un livre étrange. Alors si vous vous rendez compte dans vos études à quel point le Talmud qui la commande est un livre encore plus étrange. Alors je reviens à ce que je disais à propos des Sadducéens. Les Sadducéens prennent acte qu'il y a le livre. Mais ils se relient au livre avec énormément de respect total. J'essaie de diagnostiquer ça dans la religiosité de type Sadducéen contemporain, avec énormément de respect et de scrupules. Et en général, on va compenser le manque de foi par une pratique d'autant plus rigoriste. Vous voyez où mène cette analyse. Mais il se relie au livre avec le postulat que c'est un livre, que ce n'est pas du tout un phénomène de parole. Est-ce que c'est clair? Comment, pieusement, on va faire comme si, pour ne pas porter atteinte à la dignité des ancêtres primitifs qui croyaient que c'était une parole révélée, on va faire comme si. Il y aura une espèce de respect orthologique du langage, l'orthologie, c'est l'orthodoxie de la parole, quoi. On va se répéter, comme a dit le livre de la révélation, le livre sacré, le livre saint, mais on ne croit pas que c'est une révélation, c'est des livres importants, la plus grande sagesse humaine, mais pas plus. Vous avez compris ce que je veux dire. Et alors finalement, la conscience sadducéenne, pour établir sa lecture du texte, ne dispose que de trois éléments, le livre, les dictionnaires et l'intelligence du lecteur. Il n'y a plus de tradition. Et c'est pourquoi la religiosité de type sadducéen, reliée à la Bible, le livre de la Bible, mène au légalisme. Et à un légalisme d'autant plus rigoriste qu'il cache un manque de foi radical de ce qui est essentiel de la foi des Hébreux qu'il y a eu révélation. Ça va jusque-là? Alors il n'y a que dans les lignées où la mémoire de cette révélation est passée, ce qu'on appelle la tradition, qu'on dispose des critères d'élaboration de la loi morale au-delà et plus profondément de sa propre légalité. Je pense que c'est suffisamment clair. Bon, alors là, je vais reprendre le problème dans notre biais du point de vue de la méthode de l'étude. Je vais essayer de vous décrire la méthode de l'étude dans le milieu traditionnel. Eh bien, on a un livre et on a des raisons culturelles de croire que c'est important de s'en occuper. D'ailleurs, on peut faire des thèses de doctorat avec, je ne sais pas si vous en avez compte, des cinq thèses. Et alors, on étudie le livre pour savoir ce qu'il veut dire, et on croit dans ce qu'on a trouvé. Oui, je ne sais pas si vous en avez compte, avec moi, c'est contingent. Alors, dans ces milieux-là, on a l'habitude de dire à ce qu'on croit, ce contingent. C'est-à-dire qu'on peut croire comme ça, autrement, parce qu'on sait très bien, on est dans le coup. Okay. Ce qu'il faut, c'est faire à la lettre ce qu'il y a écrit. C'est ça la tendance traditionnelle. C'est clair ? Tu crois ? Ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que chacun croit à sa manière, puisqu'il croit que ceux qui croient. Enfin, il croit qu'il croit. Et vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà la formule de l'étude. Et en général, dans ces milieux-là, vous entendez dire Agada, Agada. Alaha, Alaha. Alors que la vérité, la tradition parisienne, c'est l'inverse. Je le disais très rapidement. On a étudié ça une fois dans l'étude du Pascal de Jean-Hébreu, je ne sais pas si c'est la même place, enfin quelques autres. Alors que pour le pharisien, c'est très différent. Il y a une mémoire qui a des raisons de savoir que ce livre est la mise par écrit d'une parole de vérité. Alors on croit d'abord que c'est la vérité, on a des raisons pour ça. La Torah Shabbaté de cette Torah écrite précède la Torah écrite. Et puis on étudie le livre pour savoir en quoi on croit. C'est pas l'inverse. C'est pas pour. Vous avez compris la différence ? Je reprends la formule. Dans la formule sadducéenne, on essaye de comprendre et on croit dans ce qu'on comprend. Alors dans la tradition pharisienne, on étudie pour comprendre en quoi on croit. Mais on croit d'abord que c'est une prophétie. Alors le résultat de l'étude est radicalement différent. Même si apparemment on parle avec les mêmes mots, ça n'a rien à voir. Et ça vous aidera, j'ai poussé les choses en périmie, mais ça vous aidera à percevoir pourquoi il y a une telle différence d'atmosphère de l'étude de la Bible dans ce que je vais appeler le monde sadducéen et le monde pharisien. Bon, alors, il est bien évident que, grosso modo, je vais un peu vous montrer que dans le monde de la civilisation chrétienne, il s'agit a priori de la méthode sadducéenne. crois qu'il y a à ce sujet un conflit très sérieux entre les catholiques et les protestants, les catholiques étant beaucoup plus à la lettre légaliste que les protestants qui parlent d'une espèce d'intuition subjective de, par le Saint-Esprit, de lecture de la Bible qui est donnée à chaque membre de l'Église protestante, alors que pour les catholiques, il y a un magistère. Vous comprenez ? Il y a donc ce conflit-là, mais c'est à l'intérieur de. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que pourquoi ? Ils étudient des livres traduits. C'est-à-dire, et la Bible traduite, c'est pas la Bible. C'est la Bible, c'est pas le Tanakh. Vous comprenez le. D'autant plus que. Le mot grec dont on s'est servi pour dire Bible, c'est le mot de Biblios, qui veut dire étymologiquement un livre de la sagesse humaine. Un homme écrit un livre. Alors c'est le livre qui prime le sens. Et, alors qu'en hébreu, ça s'appelle un sefer. Et la notion de sefer s'oppose à Biblios. Et la notion de sefer, ça veut dire une sagesse inspirée. Je n'ai pas cherché exprès l'analogie des mots. Sefer et inspiration. Mais c'est la différence. Dans l'Antiquité, dans les grandes cités païennes, il y avait toujours deux sortes de temples. Des temples qu'on appelait séphoristes et des temples qu'on appelait biblios. Vous avez vu. Les temples qu'on appelait biblios étaient voués à la sagesse humaine qui vient d'en bas vers en haut. Et le mot livre, c'est dit biblos. Et alors, c'était les temples biblios. Vous les avez en Grèce, vous les avez en Égypte, vous les avez en Asie mineure, soit séphoristes, soit biblios. Alors que les temples qu'on appelait séphoristes, c'était les temples de la sphira, enfin, l'autre mot, de la sagesse inspirée, qui va de haut en bas. Et une lecture araméenne du mot de Babylone, qui est Bab Elion. La Bab Elion, la porte supérieure. C'est ça la Bible, dans le sens grec du terme. Alors, je ne sais pas si vous en êtes compte, en français, vous parlez du Tanakh, on dit la Bible, on parle aux Sadducéens, grecs, romains, catholiques. Alors, pour mieux faire, on dit la Sainte Bible. Sinon, on l'a fasciné complètement. Bien, alors je reviens au problème. La tête des œils. Alors, ça, j'ai fermé la parenthèse sur les légalisme moralisme. Mais ça, je vais expliquer quand même. On a étudié une fois que, à propos de la nomination des juges, on nomme un juge que quand il arrive à la dignité qui s'appelle être Zaken. Et Zaken, ça veut dire vieillard. Mais ce n'est pas forcément une question d'âge. Je crois que nous avons étudié déjà cette notion une fois. Pour tout le monde. Et la vertu du Zaken, c'est la midat arachamim. C'est la vertu de miséricorde. Alors que la vertu de l'adolescent, c'est l'entièreté de la, du comportement de rigueur. Vous savez, ça, l'adolescent est absolutiste, alors que le vieillard est clément. Je me rappelle à ce sujet toujours, mais j'ai encore oublié, d'un vers de Victor Hugo dans Beauvoir, dans Darwin. Et je vais vous dire, grosso modo, s'il y a un littéraire parmi vous ou une, et vous me direz, c'est un très beau vers, qu'il y a du feu dans le regard des jeunes gens et de la lumière dans celui des vieillards. Moi, je vous dis. Vous comprenez ce que je dis. Alors, la règle absolue pour désigner un Dayan, un juge, c'est de choisir un zaken, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de la midat arachamim. À lui, on peut faire confiance quand il juge. Si c'est quelqu'un de la midat adin, on ne peut pas lui faire confiance. Vous comprenez ? Parce que la midat adin va exiger la peine maximum a priori. C'est un jugement, c'est une mécanique à condamnation. Mais est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, imaginez tout l'appareil de la justice comme un ordinateur où on pousse un bouton et il sort une réponse. On a besoin du juge. Et c'est clair ce que je dis. Donc ça va bien. Bon, c'est une référence extrêmement importante. Et dans mon expérience personnelle de la vie israélienne contemporaine, mais surtout de la vie parlementaire, je suis extrêmement impressionné par ça, de cet envahissement de la mentalité légaliste romaine dans le juridique parlementariste israélien contemporain qui risque de mener à des catastrophes. Et on est surtout frappé par cela, la substitution de la vertu de la légalité à la vertu du coup, à la moralité du coup. Et les consciences morales du peuple sont paralysées à cause de ce malentendu intentionnel. Elles sont, je ne sais pas comment dire ça en français, il ne touche pas. Plus influencé, impressionné par cela, on croit entendre parler des prophètes de la moralité alors que c'est des contre-prophètes de la contre-moralité. Est-ce que c'est clair? Et alors on n'ose pas porter atteinte à la lettre de la lettre de la lettre du préfère. Et vous voyez ce que les Romains ont réussi à faire. Et, bon, vous voyez que nous sommes dans une problématique qui récapitule 2000 ans de ce problème et qui est très, très difficile. On n'est pas prêt d'en sortir. Enfin, c'est la problématique qui se pose à nous. D'autant plus que vous remarquez une chose, c'est les tenants du légalisme ne sont pas dénués de conscience morale, mais ils ont une conscience morale sélective. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire ça, la conscience morale sélective? On doit le secours des victimes, mais pas n'importe quelle, celle du camp politique dont on fait partie. Moi, je vous casse, vous avez compris ça? Et c'est très significatif. Alors on revient à la tête des œufs. Donc j'ai parlé du profil de la civilisation de Dôme, et comme vous le savez, il y a une relation au niveau de chaque grand pays, à propos de chaque, du développement de chaque grand empire, entre l'histoire d'Israël et l'histoire de la civilisation contemporaine de chaque temps. Et les valeurs qui sont élaborées dans chaque civilisation sont finalement recueillies par l'identité d'Israël dans son passage de l'exil. Vous vous rappelez de ce thème que nous avons étudié, je ne sais plus, c'est la dernière fois ou l'avant-dernière, avec l'histoire de Joseph en Égypte, Yesh Shever Ben Israël. Ça se passe en Égypte, alors on va en Égypte, non pas pour s'égyptianiser, mais pour délivrer les valeurs éparpillées dans l'Égypte et les sanctifier, les transfigurer, les mettre à l'abri à l'échelle de l'universel messianique futur. C'est clair, cette formule trop concise peut-être, mais je pense que c'est. Et ce qu'il faut mettre en évidence par rapport à la relation à la civilisation romaine, la civilisation du droit, c'est précisément le fait qu'elle a élaboré là, ce que nous avons aujourd'hui, la logique. Et la logique, c'est la tête. La logique, c'est cachère. Mais toute la phénoménologie qui habite cette logique, ça c'est Fouchi, ça c'est le sensible, la sensibilité, telle est intuite. Vous avez compris ce que ça veut dire le schlag dans cet enseignement. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va ramener de Rome? La capacité logique. Oui. Celle-là, elle est cachée. Maintenant, la phénoménologie qui abîme cette logique, je rappelle la phénoménologie tout à l'heure parce qu'elle me plaît, mais enfin, je crois qu'elle est suffisamment claire, celle-là, elle est impure. Et quand vous allez lire Tacite, bon, je ne vais pas prendre Cicéron, mais prendre Cicéron, la musculature du raisonnement juridique, bon, ben ça, on va l'adopter et on va aider les amis avec cette propre logique, ce qui s'occupe des amis. Mais les valeurs phénoménologiques que cela véhicule, ça c'est impur absolument. C'est pas si beaucoup plus clair. Et j'ai été extrêmement frappé de cela dans l'étude de Maïmonide. C'est-à-dire, ce que Maïmonide retient de la philosophie grecque, c'est la logique. Et tout ce que l'on parle, ce dont les Grecs parlent avec leur logique, ils le rejettent. Mais la logique grecque, ils l'adoptent et ils l'intègrent dans le patrimoine d'Israël. Au niveau de Maïmonide, il s'agissait vraiment de la logique grecque. Mais je citerai un ouvrage qui parle de la manière dont Ésaïe trompait Isaac. Vous savez qu'il y a une complaisance d'Isaac vis-à-vis d'Ésaïe, c'est un problème pour lui-même, jusqu'au bout. Vous avez dû remarquer ça dans la lecture des textes. Et puis, le Midrash se base sur l'expression que Isaac aimait Ésaü, qui Saïd Béfil. Saïd Béfil, ça veut dire qu'il avait le gibier dans la bouche. Saïd, le gibier, Béfil dans sa bouche. Le pshat, c'est que Isaac avait le goût du gibier dans la bouche. Or, Ésaü savait lui préparer le gibier, vous vous rappelez de la scène, et donc il aimait trouver. Il faudrait que nous revenions en arrière sur les analyses de cette époque, enfin de l'époque des parachiotes de ce texte, et que Isaac a le pressentiment des deux tâches que l'homme doit résoudre pour résoudre le problème posé à l'identité humaine, la vocation matérielle et la vocation spirituelle, la vocation de ce monde-ci, la vocation du monde à venir. Et finalement, il arrive, à le judicier. Et nous avons appris, pas exactement sur cette forme, mais raccordé, et nous avons appris qu'après lui, ces deux vocations vont se préparer, une avec Ésaü, que la vocation matérielle de son esprit, et l'autre avec Jacob, que la vocation spirituelle du monde à venir. Jacob n'est pas encore Israël. Le niveau Israël, c'est quand Jacob a les deux capacités, les deux cachets. Mais pour le moment, Ésaü a choisi que ce monde-ci, il a donc perdu le monde à venir. Et puis Jacob a choisi le monde à venir, alors il n'a pas ce monde-ci, ça s'appelle Ésaü. Ésaü, c'est l'homme du monde à venir dans ce monde-ci, et pas chez lui. Je vais faire ma parenthèse. Mais l'objectif, c'est pas d'être Jacob seulement, c'est d'être Israël. Et ce monde-ci, le monde à venir. Ça vous éclaire d'ailleurs sur le problème qu'on va étudier tout à l'heure sur notre temps. Pourquoi Jacob est appelé Israël tantôt, pourquoi Israël est devenu appelé Jacob tantôt. Et donc, Israël prend acte que Jacob a choisi la vocation spirituelle, c'est très bien. Il va le proposer des bénédictions de la vocation spirituelle. Et puis Ésaü a choisi la vocation matérielle, c'est très bien. Il va le protéger des bénédictions de la. C'est son plan des bénédictions de la vocation matérielle, parce que, nous dit le Midrash, Ésaü avait une capacité dialectique, logique, c'est des mots contemporains, mais la chose est là, telle qu'il arrivait à tromper son père. Et son père était persuadé, en fait, il semblerait, c'est notre problème. Son père était persuadé officiellement que Jacob était caché, que Ésaü était caché, parce qu'il lui posait des questions de halakha avec un pilpoul, pilpoulisé au 13e degré. Par exemple, il étudiait la cacheroute, et alors Ésaü, je suppose que dans la Midrash, devait penser à son Talmud Torah, il y a un petit personnage qui posait des questions au même. Et lui demander, est-ce qu'on doit prendre la dîme du sel? Bon, tout le monde sait que le sel, on prend pas la dîme. Alors Ésaü demande ça à Isaac. Allez, regarde ton gosse. Il est pieux celui-là, même le sel, il veut faire la dîme. Alors il dit la dîme. Et quand il a dit, dans tout le monde, le Midrash, quand le. Vous voyez, une capacité d'argumentation, on appelle ça des arguties, dans le sens négatif, la capacité juridique telle que ça se fait prendre pour du tamis. Vous voyez, quand le pipou se fait prendre pour le limou, c'est la catastrophe. C'est cela le danger. C'est clair que je dis. Et alors, ça, c'est la capacité du droit romain. Et alors, je continue, par un autre exemple, il lui a demandé d'apporter un gibier. Alors, bien entendu, il pensait que le gibier se cachait. Alors, Ésaü m'assurait qu'il avait aiguisé les flèches de façon telle que même demain, il n'y aurait pas de problème dans la chambre. Alors, il avait une connaissance de la loi, au niveau, encore une fois, formel, légal, juridique, absolu, mais aucune moralité. C'est ça qui trompait. Alors, le Midrash va lire le verset. Ça y est, les filles, dans le chat, c'est que le goût du gibier était dans la bouche. Le goût du gibier, ça y est, la bouche de la vie de son cri. C'est le chasseur qui va au dehors chercher à manger la nourriture qui a le goût de la terre, alors que Jacob s'occupe de la Torah qui vient du ciel. Mais Isaac, c'est les deux. Et c'est les deux qui pourraient. Je referme cette parenthèse dans la parenthèse. Et le Midrash explique comme ça. Ça y est, les filles, ça y est, il y avait. Dans la bouche d'Ésaü, quand il parlait, il y avait une âme prisonnière comme un gibier, et c'était la méchama de Rabbi Meir, si vous le savez, descend de Romains. Rabbi Meir, vous savez, un converti qui descend du milieu de Édom. Et alors, ça veut dire, or, Rabbi Meir, c'est la force de la dialectique dans la Mishnah. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Ça veut dire, la force de la dialectique juridique dans la Torah Shebaalpé nous a été donnée par Rabbi Meir. C'est-à-dire, c'est cette capacité logique qui vient de Rome, elle rentre chez nous avec Rabbi Meir. On parle de Rabbi Meir, pas de n'importe qui, je vous rappelle, c'est plus Cicéron. Vous comprenez cela. Et alors, c'est parce que Ésaü avait dans sa bouche prisonnière, quand il parlait, la force de la Torah Shebaalpé de Rabbi Meir, qu'ils arrivent à tromper. Voilà ce que dit. Bon, je pense qu'il est clair à décrypter. Okay. Cette capacité du juridique qui se fait prendre pour la moralité. C'est ça qui a trompé Isaac. J'ai pas vu. Et alors, je vous compléterai par un prolongement de ce midrash dans un autre midrash. Quand Jacob revient de son exil et qu'il doit rencontrer Ésaü pour le règlement de compte, alors le verset dit « Vaïra, Yaakov, Meod, Vaïk, Tirlo » que Jacob a eu très peur et il a été dans l'angoisse. Et Rachid dit, en citant un midrash, il a eu très peur d'être tué, il a été dans l'angoisse de risquer d'avoir à tuer. Cette rencontre entre Jacob et Ésaü, c'est l'un ou l'autre. Vous avez dit que là, la rivalité est inexplicable. Le homme et le homme et Emma. Il ne peut pas être les deux à la fois, c'est l'un et l'autre. Et vous rendez Jérusalem, vous rappelez de la liste de Jérusalem. Et alors, ce midrash, le titre Rashi, signifie, dans le prolongement du premier, la chose suivante. Vous savez que Rabbi Meir a eu un maître qui s'appelait Richard ben Abouya, vous avez entendu le... Achet, okay. Qui est devenu apostat, et c'est pourquoi on l'a appelé l'autre. Achet. Alors, vous allez d'ailleurs me chercher, cherche-moi le Rashi sur ce verset de Vaïra Yaakov Meod Baitzel, c'est dans Vaishlach, au début de Vaishlach. Vous allez voir la forme exacte d'une grâce spécifique Rashi. Alors je continue pour Rabbi Meir. C'est un épisode du Talmud qui est très important, qui est très connu. Et Elisha ben Abouya était un des grands maîtres d'Israël, et finalement il a apostasié et il est devenu apicoré. Tout autant d'ailleurs de l'influence de l'étudiation grecque et de l'envahissement de la mentalité de la philosophie dans les problèmes de la tradition. Mais, la Gemara nous raconte dans quelles circonstances il a perdu la foi, mais entre-temps, c'était Rabbi Meir qui était son élève principal. Et Rabbi Meir a continué à l'honorer malgré tout. Alors, très souvent, qu'est-ce que c'était ? Alors, très souvent, la Mishnah, comme je sais la Gemara, et rappelez-vous la formule, Stam Mishnah Rabbi Meir, vous voulez que j'écrive au tableau, c'est pas la peine. Stam Mishnah, il y a un enseignement de la Mishnah qui n'est pas cité au nom de Rabbi Intel, Rabbi Intel, on dit c'est Rabbi Meir. Quand c'est une opinion particulière, on dit qui a dit quoi. Mais quand on ne dit pas, on sait que c'est Rabbi Meir. C'est clair ? Rabbi Meir, c'est la force de la Torah Shabbat. Et alors, il arrive très souvent que Rabbi Meir fasse citer l'opinion de Richard ben Abouya dans la Mishnah. Et donc, on le retrouve dans la Gemara. Et c'est toujours la formule « Acherim omrim », d'autres disent. Quand il y a d'autres disent, on dit « un tel a dit ceci, un tel a dit ceci », et d'autres disent ainsi, on sait que ça vient de Acher, l'autre, c'est-à-dire Richard ben Abouya. C'est vrai que c'est tout à fait. C'est avec beaucoup de pudeur que, bien qu'il a apostasié, autant il n'était pas apostat, il était caché, ça Torah, c'était une Torah, c'est clair. Alors voilà comment le Midrash aussi franchit. Quand Jacob va rencontrer Ésaü, et qui sait qu'Ésaü se prépare à la faillite, alors il a peur, c'est la guerre, il a peur de quoi ? Ou d'être tué, va, ou d'avoir à tuer Ésaü, va y tuer. Et en général, les hommes d'Israël, ils n'ont juste une seule peur, c'est d'être tué, ils n'ont pas peur de tuer. Mais Jacob, lui, a les deux peurs. Alors voilà le Midrash aussi franchit. Va ira, shema yeharek. Il a eu peur, de peur qu'il soit tué, lui. Et il a été dans l'angoisse, si lui tue d'autres, Acherim. Or, Acherim, c'est l'expression que la Mishnah emploie pour citer Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Ça veut dire, si Jacob tue Esaü, il a tué Rabbi Meir. Alors il avait peur de tuer Rabbi Meir. Pourquoi ? Qui Saïd de Fiv, Saïd de Zohar, c'est Nishmato chez Rabbi Meir. Qu'est-ce que c'est ce gibier dans la bouche de l'Essam ? C'est-à-dire quand le Romain parle, il parle avec la logique dialectique de Rabbi Meir. C'est clair ? Voilà, la tête de l'Aïs. Ça va jusqu'au fond ? Ça veut dire qu'il y a aussi, dans la caverne de Marcola, avec les valeurs des événements fondateurs de la messianité d'Israël, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa, Rachel étant à Bethléchel, il y a aussi la tête des Aïs. Bon. C'est déjà pas mal. Mais le reste est infus. Voilà ce que c'est une base de vie. Ça va jusque-là. Quel avait-il ? Non, pas un
mais est-ce qu'on
aurait un résultat chez nous ? Je veux dire, chaque manière d'être homme a une équation personnelle qui s'exprime dans ce que les Grecs appelaient sa psyché. Le mot psychisme, psychisme en français est trop faible par rapport à la psyché des Grecs. Ça veut dire, son équation psychologique, mais c'est plus fort que psychologie. Sa manière d'être homme, sa personnalité, son équation personnelle. Et la grande différence qu'il y a entre la tradition d'Israël et les autres traditions humaines à propos de la même révélation qui a été à l'origine universelle, c'est que dans les autres traditions, il y a un écran d'impureté qui est précisément l'équation personnelle en question. Alors, en termes très simples contemporains, on dirait, je ne sais pas pourquoi la sensibilité est faite. Alors, à ce niveau, chacune pour elle-même, toute cette sensibilité est cohérente et respectable, elle est scellée. Mais confrontée aux critères de la sainteté, elle se dévoile comme un cul. Je ne sais pas comment dire. J'essaie de prendre ça au niveau de la sensibilité. Mais œuvre ne pourra pas ne pas percevoir comme un cul, c'est-à-dire un musulman aussi corollairement. La sensibilité gustative des chrétiens. On mange du sang. On avale les huîtres vives. On préfère le saison vif. Alors, cette sensibilité, elle a son propre profil, mais par rapport aux critères de la sainteté hébraïque, c'est impur. Et on ne peut pas ne pas le percevoir comme ça, au niveau de la sensibilité, indépendamment des règles de l'absolu de la sainteté. Indépendamment, au niveau de la sensibilité. Au point que d'ailleurs, la demande intervient. Ne dites pas que vous n'aimez pas le faisandé parce que c'est faisandé, et vous n'aimez pas parce que la terre a dit que. Il y a une autre raison, il y a la raison de la sainteté. Vous connaissez ça. Et il y a une manière de se comporter qui finalement s'exprime dans chaque culture au niveau de ce qu'on appelle la phénoménologie. Je ne sais pas si ce terme si vous clair. Eh bien, c'est la phénoménologie romaine qui est inclue par la logique. Et lorsque la logique s'exprime dans sa propre phénoménologie romaine, on a cette torsion de la conscience morale, la perte d'espérance que la loi morale est praticable, et on se rabat sur la loi légale. Voilà ce que je voulais rappeler tout à l'heure, c'est que le christianisme a fait ce mix-là. C'est-à-dire à greffer sur le légalisme romain dans le sens de la Rome païenne, l'espérance de la moralité déçue par rapport à la loi hébraïque. Déçue parce que on la rencontre, puisqu'on est romain, comme impraticable, parce qu'on y voit une loi légale. Vous avez compris le. Quel. Répète la fin de la question, je t'ai entendu, mais pas du tout. En tout cas, c'est au moment de cette. Au moment de cette époque, c'est le fait culturel. Au moment de cette époque. Oui, mais il s'agit, je veux dire, à cette époque, et là, référez-vous au commentaire de Nachmanides, beaucoup plus en détail. Je vais le lire très, très rapidement. Vous rappelez que dans le contexte du début de Chayot Sarah, Abraham sait a priori quel caveau il veut, pas n'importe quoi. Vous rappelez-vous ça. Et ce caveau, on nous le décrit, et ensuite le Midrash dira, c'est le caveau qu'il avait déjà enterré Adam et Chava. Un peu dans les formules de la culture contemporaine très, très diluées, le verso de l'humanité. Et alors, le texte nous dit très clairement, il y avait une certaine famille qui habitait ce pays-là, la famille d'un certain Ephron, ça je vous le mets au tableau, Ephron. Je vous rappelle que la racine du nom propre de Ephron, c'était le gardien du cimetière, c'était le nom de Rafa, et à la frontière tu retourneras. Il portait le nom de sa profession. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais. Non, à part franchement, c'est pas du tout. Le fossoyeur avec un grand F. Et alors, que Ephron avait non seulement le caveau de sa famille, mais avait aussi le champ où on enterrait les étrangers. Ce n'était pas une fosse commune, mais dans ce moment de la civilisation à cette époque, Chaque famille avait son caveau propre et c'était son titre de possession de la terre. D'ailleurs, c'est entré dans la halakha que quiconque arrive en Eretz Israël a l'obligation d'acheter une parcelle de la terre, mais premièrement pour sa propre tombe. Vous avez différentes propositions, il y en a même avec une spécialité des choses. Pour venir dans une halakha, vous voyez que la prise de position. Alors, Ephron, lui, avait un caveau particulier. Il y avait la Mehara et le Kever. Le Kever, c'est le caveau de sa famille, dans la Mehara où étaient enterrés les guérims, les étrangers. Alors, étant donné le statut d'identité d'Abraham en ce temps-là, c'est ce caveau-là qui réclame. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va prendre le relais de ce qui était arrivé depuis Adam Arichon jusqu'à Ephron. D'Adam Arichon jusqu'à Ephron, c'est dans le sens de la chute. Abraham vient prendre le relais dans le sens de la rédemption, dans le sens de la fin. Puisqu'il est guerre, il ne peut pas être enterré dans un caveau. Puisqu'il est toshav, il a droit au caveau. Il ne peut pas être enterré dans une marpelle. Alors que ça peut être enterré, l'identité hébraïque lorsqu'elle meurt, ça ne peut être enterré que dans ce caveau-là de Hébron. C'est-à-dire qui assume à la fois la lignée des engendrements depuis Adam et aussi l'universel humain à travers les deux. Je pense que ça peut être dit vraiment autrement, mais c'est évidemment clair. Et par conséquent, c'est vraiment les droits d'acquisition de l'État d'Israël. Elle commence par cette transaction. Si je dis, Abraham reprend en charge l'histoire de l'humanité telle qu'elle était dans la lignée de la chute depuis Adam jusqu'à Ephron. Et alors, une des expressions qu'a étudié surtout, à partir du Midrash, mais surtout le Rav Chaim de Volozhin, dont je crois le dernier chapitre du Nefesh HaChayim, et qui montre cette ascension à partir d'Abraham de ce qui était dégradé à partir de Adam. Je vous rappelle une équation sur laquelle le Raphaël de l'origine se base et que vous avez certainement entendu étudier d'autre part. C'est la différence entre Aleph et Aleph. Je vous rappelle ça, le Aleph qui descend à Aïe, c'est l'opacité à partir de la lumière, Aleph c'est la lumière et Aleph c'est la peau. Je vous rappelle ça, on a étudié ça. Mais alors, la chute c'est du Aleph et Aïe. Et voilà comment Abraham se définit dans une certaine circonstance. Il se définit Afar à Efer. Afar, c'est la poussière, Efer, c'est la cendre. Vous voyez, là, il y a le passage de Aïnol. Lorsque je rentre de l'origine, tu dis cela. Et donc, ça comprend cela. La chute va de Adam à Ephron. Il est devenu poussière. Alors, la remontée, c'est à partir de cette poussière d'arriver à la lumière. Toutes les étapes avant d'arriver à la lumière, c'est la fin. C'est la différence entre Afar et Efer. Effectivement, le nom plus précis, c'est Ephron ben Tsoar, ça veut dire poussière fille de lumière, alors que Abraham va dans l'autre sens, va de la poussière à la lumière. Ça va vous dire. Je reviens donc au problème. Pourquoi je vous ai cité tout ça, hein? En partant de quoi on est arrivé là? Non, par rapport sur la toile des Yagouines. Mais à cause de quoi? Non, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais donnez pas. Oui, bon. Alors attendez, je vais reprendre le sujet. C'est-à-dire que Jacob exhorte ses enfants à le ramener à la caverne de Marpella. Et en partant de la caverne de Marpella, inévitablement il est arrivé à Rome, mais à l'époque. Il y a d'abord ce premier chapitre. Ensuite, vous avez un deuxième paragraphe qui commence à même fait, au chapitre 48, et qui va jusqu'à. Et tout le chapitre. Vous avez cette même scène qui se repasse, qui est racontée. Et autrement, je veux dire plus exactement, il reste peu de temps, alors j'ai tendance à raccourcir, mais ça fait prendre une partie du sujet, mais elle est étudiée pour elle-même. C'est-à-dire cette exhortation de Joseph de ramener le cercueil de Jacob au pays de Canaan, donc dans la caverne de Marpella, que je mettrai en évidence un enseignement particulier là-dessus. Et finalement, c'est les quatre premiers versets, une première paracha, un premier paragraphe de la, du récit de la Torah. Ensuite, suit tout un chapitre, un autre paragraphe, si vous voulez, et où nous avons apparemment une autre scène, mais c'est la même au niveau de l'histoire. Et là où nous voyons Jacob bénissant les enfants de Joseph en les adoptant comme ses propres enfants. C'est-à-dire que bien qu'ils soient nés en Égypte, leur identité est celle du pays de Canaan. Et que finalement, malgré les différences considérables de deux textes, c'est la même révélation qui nous est donnée à deux registres radicalement différents. Une, au niveau de la récapitulation générale de l'histoire d'Israël, à un niveau de transcendance absolue, et l'autre, au niveau de l'insertion de ce même thème de fin de l'exil et de retour au pays de Canaan, à travers l'histoire de ce Joseph qui était le véhicule du moment de l'exil, dans l'existence de l'histoire. C'est-à-dire, parce qu'on est suffisamment familier au texte, mais vous le verrez par vous-même, tout se passe comme si le même sujet est répété. Un, alors là, j'en parle dans la Midrash, dans les mondes d'en haut, ça se passe comme ça. Jacob convoque Joseph et le fait jurer de ramener son cercueil au niveau du monde. L'autre, dans les mondes d'en bas, sur terre, dans l'histoire, ça se passe comme ça. Jacob adopte l'identité hébraïque de l'exil des enfants de Joseph et la ramène. Vous avez compris? Alors, la première paracha est appelée Stouma. Voilà ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et c'est pas sur ce point. Stouma en hébreu, ça veut dire, c'est le féminin de Satoum, qui signifie fermé, caché, scellé. Alors que l'autre paracha est une paracha ptoucha. Ptoucha en hébreu, ça veut dire ouvert. Vous remarquerez sur les ailes du Koumash. Et ceux qui sont familiers avec le Sefer Torah lui-même, je vous dirai comment vous le remarquez, qu'il y a deux sortes de parachutes. Au niveau du Jumi du fromage, vous verrez que ce Sefer Torah commence par une lettre qui est isolée, par la lettre P. Je vais vous donner un exemple ici. Quel est par exemple un peu plus loin. Bien, voilà, vous voyez, page 238, juste à la fin de notre paracha. Stouma, celle qui commence, il y a la paix. Ça veut dire que ça indique que la paracha d'ici est ptoucha. Elle est ouverte. On n'a pas encore compris que ça veut dire une paracha fermée, une paracha ouverte, je vais expliquer. Je vous montre d'abord typographiquement. Si vous voulez. Dans l'ordre, vous verrez par vous-même, il y a un sameur. Je suppose que les Marianotins vous avez appris ça en bibliographie. Mais déjà. Et alors, là. Dans le Sefer Torah, la différence est l'espace non écrit, l'espace blanc, entre le dernier mot de la paracha précédente et le premier mot de la paracha suivante est plus grand dans une paracha dite Ptoucha et moins grand dans une paracha dite Stouma. Bon. Je vais directement à l'essentiel. Il y a un certain nombre d'intervalles de places de lettres possibles, mais il y en a beaucoup moins pour une paracha Stouma, ça indique que c'est Stouma qui va suivre. Et les parachutes de la Torah en général se divisent dans ces deux groupes. Les unes sont stoumot, les autres sont ptoukh. Or, Vayikri, la paracha de Vayikri commence immédiatement après, sans écart, sinon d'une lettre et demie peut-être de lettre, entre le dernier mot de la paracha précédente de Miket et le premier mot de Vaygash, hein, et le premier mot de la paracha de Vayikri. Si vous voyez un Sefer Torah ou un des livres imprimés qui reproduisent le texte de la Torah pour ceux qui apprennent à lire de la Torah sans voyelle, eh bien, vous voyez qu'après le mot Meod, le dernier mot de la paracha de Vaïgash, et avant le mot de Vaïkri, le premier mot de notre paracha, il y a un tout petit espace, à peine indiqué. Alors le Midrash dit que cette paracha est Stouma Mina Stouma, la plus fermée des fermées. Mais dans des différences raisons. Alors, je reviens à l'explication précédente. Ça veut dire, lorsque un enseignement nous est donné tel que ça se passe dans les mondes d'en haut, la paracha est stouma, fermée. On ne peut pas diagnostiquer en bas. Donc, lorsqu'elle nous est donnée dans les mondes d'en bas, alors elle est ouverte. Vous gardez ce principe. Une paracha stouma est une paracha totalement occultée, alors qu'une paracha ptoucha est une paracha explicite. d'une autre manière, lorsque ce dont on parle se passe dans les Sphirotes, si j'ose dire, à la racine de nos existences, alors c'est raconté en style de Parashat Struma. Lorsque ça se passe dans l'histoire dévoilée en bas, c'est raconté dans une Parashat Struma. Alors le Midrash donne plusieurs raisons pour nous indiquer que cette Parashat est Struma. Je vous indiquerai une des dimensions, il n'y a pas malheureusement beaucoup de temps, déjà à l'heure. Alors, je vais aller à un des enseignements au moins. Je vais le prendre, le verset 29. Le deuxième verset de la page. Va écrire, bien aimé Israël, la bouche. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Ça peut littéralement s'approchèrent de mourir. On a appris une fois déjà ça. C'est pas Israël qui va mourir. Il y a encore avec nous l'homme. Mais, et d'ailleurs, je vais vous proposer d'étudier ça dans les références, je vais même amener le livre, on n'a pas eu le temps, mais peut-être qu'on retrouvera ça une autre fois. Les parenthèses, surtout quand elles sont introductives. Alors, c'est pas Israël qui s'approche de la mort, Israël est éternel dès qu'il devient Israël. Il y a un processus d'engendrement de cette identité qui est dans le temps, mais dès que cette idée est engendrée, elle a une dimension d'éternité qui dépasse le temps. Et ça se développe dans l'histoire. Donc il ne s'agit pas que Israël va mourir. Mais les jours d'Israël s'approchèrent de la mort au moment où Jacob, qui est descendu en exil, va installer l'exil. C'est-à-dire Israël, dans l'exil, risque de disparaître. Non, je me suis mal exprimé. Vous corrigerez. Hein. Ça veut dire que les jours où Israël est au niveau d'Israël s'arrête et recommence les jours où Israël n'est plus qu'au niveau de Jacob. Dans l'exil, Israël est au niveau de Jacob. Alors que en dehors de l'exil, Jacob devient Israël. Vous vous rappelez de cela? C'est au niveau de son exil que Jacob reçoit le nom d'Israël. Repartant en exil, Israël reprend le nom d'Israël. Donc les jours d'Israël s'approchent de la fin. Mais non pas Israël. Israël, eh bien, est clandestin dans le profil de Jacob. Mais il ne disparaît pas. Un juif, c'est quand même un hébreu clandestin, mais qui est quand même là. Il y a le caractère indélébile de cette partie de l'être juif qui est hébraïque et qui est là, bien que caché sous des sédiments d'assimilation successives, c'est indélébile et irréversible. Mais ce n'est pas dévoilé, ce n'est pas au jour, c'est dans la nuit. Vous comprenez un peu le vocabulaire. Et alors, Vaïkrevou Yémé Israël, Amout Vaïkra, et il convoqua, il appela, Livno, son fils, Yosef. L'expression hébraïque, c'est Karol, appeler quelqu'un, c'est-à-dire avec la forme du datif. Alors, le Midrash dit, parce que c'est Joseph qui a la possibilité de faire ce qu'il va demander. Il demande que on l'enterre en Égypte. Il y avait de quoi le demander, parce que les Égyptiens l'ont reconnu comme un des grands dignitaires de l'histoire du monde, et ils voulaient l'embaumer, en faire une idole. Comme le répète le Midrash, c'est comme un très vraisemblant de comprendre directement. Et quand on sait ce que fait et ce que font les grandes civilisations, les traces d'Israël qu'ils ont traversées, ils en font des effigies idolâtrées. Vous comprenez ce que je veux dire, par allusion. Et alors, Jacob a une terreur absolue qu'on fasse de lui un Christ. Et alors, Joseph, d'ailleurs, va faire comme lui, il va demander à ses frères, surtout, faites comme Jacob a demandé, faites-le pour moi. Ça n'a pas empêché les chrétiens d'adorer un fils de Joseph. Et alors, ici, Rachid, c'est un Midrash qui dit pourquoi le texte nous dit et il appela son fils Joseph. Tout le monde sait que Joseph est son fils. Il aurait cru qu'il le dise Vaïkra le Yosef. Pourquoi Vaïkra l'Ibno le Yosef? Ça veut dire, l'hypothèse serait d'abord Vaïkra l'Ibno et ça suffit. Et le fils auquel il aurait dû confier sa vie le Midrash